Je vous invite, frères et sœurs, à écouter la lecture de la Bible, les trois textes de ce matin sont extraits tous les trois de l'Évangile de Jean et centrés sur le thème du royaume de Dieu. Tout d'abord, dans cet Évangile de Jean, au chapitre 6, les versets 14 à 15 qui suivent le récit de la multiplication des pains. Les gens, voyant le miracle que Jésus avait fait, déclarèrent « Cet homme est vraiment le prophète qui devait venir dans le monde. » Jésus se rendit compte qu'ils allaient venir l'enlever de force pour le faire roi. Il se retira donc de nouveau sur la colline tout seul. Puis au chapitre 12, les versets 12 à 16. La foule nombreuse qui était venue pour la fête de la Pâque apprit que Jésus arrivait à Jérusalem. Ils prirent alors des branches de palmiers et sortirent à sa rencontre et ils criaient. Gloire à Dieu, que Dieu bénisse celui qui vient au nom du Seigneur, que Dieu bénisse le roi d'Israël. Jésus trouva un âne et s'assit dessus, comme le déclare l'Écriture. N'aie pas peur, population de Sion, regarde, ton roi vient assis sur un jeune âne. Ses disciples ne comprirent pas ces faits tout d'abord, mais lorsque Jésus eut été élevé à la gloire, ils se rappelèrent que l'Écriture avait annoncé cela à son sujet et qu'on avait accompli pour lui ce qu'elle disait. Puis au chapitre 18, les versets 33 à 37, un extrait du dialogue de Pilate avec Jésus. Pilate rentra alors dans le palais, il appela Jésus et lui demanda « Es-tu le roi des Juifs ?» Jésus répondit « Dis-tu cela parce que tu y as pensé toi-même ou parce que d'autres te l'ont dit de moi ?» Pilate répondit, « Suis-je un juif, moi ? Ceux de ta nation et les chefs des prêtres t'ont livré à moi. Qu'as-tu donc fait ?» Jésus répondit, « Mon royaume n'est pas de ce monde. Si mon royaume appartenait à ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour empêcher qu'on me livre aux autorités juives. Mais non, mon royaume n'appartient pas à ce monde. » Pilate lui dit alors, « Tu es donc roi ?» Jésus répondit, « Tu le dis, je suis roi. Je suis né et je suis venu dans le monde pour parler de la vérité. Tout homme qui appartient à la vérité écoute ce que je dis. » Ô Éternel, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur notre sentier. Amen. Chers frères et sœurs, chers amis, nous vivons à l'occasion de ce culte trois choses différentes. D'abord, la journée parisienne, Évangile et Liberté, qui commence avec ce culte, qui se prolongera vers midi par un repas aux quatre rues de l'Oratoire et cet après-midi, dans ce temple même, par une table ronde consacrée à la question suivante, la vie éternelle, comment y croire ? Et puis, nous voulons remercier la paroisse de l'Oratoire d'avoir organisé avec nous cette journée et de nous accueillir dans ce temple et dans cette paroisse. Deuxième point, la prédication de ce matin s'inscrit dans un ensemble de trois consacrés au thème « Le chrétien et la politique ». La première en janvier sur l'aliénation religieuse, la deuxième en février sur un christianisme social et celle d'aujourd'hui sur la notion délicate et terriblement complexe, pour ne pas dire obscure, du royaume de Dieu. Enfin, bien entendu, la fête des rameaux, comme l'expriment ces rameaux, à gauche ou à droite, selon que vous êtes assis ici ou là, de la chaire. Pour essayer d'éclaircir tant que faire se peut les choses au sujet du royaume de Dieu, je vous propose trois parties qui essayeront de structurer les choses avec chacune trois points. Alors, première étape et premier point, le récit des rameaux dans l'évangile de Jean est nettement plus concis, vous l'avez remarqué, que celui de Matthieu, de Marc et de Luc. Mais on y trouve la même insistance de Jésus qui, à l'occasion de son entrée dans Jérusalem, est acclamé comme un triomphateur et comme un libérateur, et même comme un roi. Il y a une insistance sur ce point-là, et l'évangile de Jean est le seul à dire « comme roi d'Israël ». Au chapitre 6 de cet évangile, nous avons entendu qu'on veut se saisir de Jésus pour le faire roi. On veut l'enlever, dit le texte, et Jésus se dérobe et se cache dans un lieu à l'écart. Puis il y a ce récit des rameaux, et à l'autre extrémité de l'évangile, ce dialogue fameux de Jésus avec Pilate, dans lequel dialogue il déclare « Mon royaume n'est pas de ce monde ». Nous sommes donc dans une certaine confusion, et les évangiles traduisent ce malentendu, dont d'ailleurs on a souvent dit que Judas serait l'expression par excellence, Judas qui trahit Jésus, mais parce qu'il se sent trahi par lui dans ses espérances messianiques, attendant de Jésus qu'il chasse l'envahisseur romain et rétablisse une royauté davidique. Royaume de Dieu. Pour les non-initiés, cela fait un peu Louis XIV. Alors, on remplace souvent l'expression, à juste titre d'ailleurs, par celle de règne de Dieu. Par exemple, Jésus à plusieurs reprises déclare « Le royaume de Dieu est proche ». On peut très bien traduire « Le règne de Dieu est proche ». Mais cela n'empêche pas que l'expression est floue, qu'elle est très englobante, paradoxale et même tout simplement contradictoire. Certains textes nous disent de ce royaume de Dieu qu'il est déjà là, qu'il est inauguré, d'autres qu'il est totalement futur. Certains qu'il viendra avec fulgurance, brutalité et de manière éclatante. D'autres, au contraire, que ce royaume est l'objet d'une lente maturation, qu'il est caché et imperceptible. certain qu'il est réservé à des élus, que son entrée est par conséquent conditionnelle. D'autres textes, qu'il est offert à tous, surtout à ceux qui apparemment ne le méritent pas, qu'il est donc totalement gracieux. Certains affirment que ce royaume est terrestre, qu'il appartient à ce monde. D'autres, qu'il est céleste et hors de notre portée. Certains qu'il est réalisé avec l'être humain et d'autres sans lui. Nous trouvons là la richesse de l'enseignement de Jésus et la difficulté que ceux qui ont écrit les évangiles dans les années 70, longtemps après la mort de Jésus, la difficulté qu'ils ont eue à ressaisir cette notion du royaume de Dieu et à la bien faire entendre. Alors, deuxième point, c'est Albert Schweitzer, concurremment avec d'ailleurs un théologien allemand, Johannes Weiss, qui a montré le premier la centralité de cette réalité du royaume de Dieu dans le message de Jésus. Albert Schweitzer dit même que c'est là quelque chose de capital, et cela sera reconnu bientôt par tous les commentateurs du Nouveau Testament, par tous les exégètes, comme on dit. Il est assez surprenant de penser que jusque-là, on n'avait pas découvert ce rôle décisif du royaume de Dieu dans la prédication de Jésus. Le royaume de Dieu est proche. Pour Albert Schweitzer, c'est un condensé merveilleusement bref de toute la prédication de Jésus. En 1901, Albert Schweitzer a 26 ans, il écrit, il est déjà attelé à cette question, « Le mystère du royaume de Dieu contient le mystère total de la conception chrétienne du monde. » Puis il y aura discussion, il y aura débat. Et Albert Schweitzer maintient sa position en 1951, il a 76 ans, dans le dernier texte qu'il publie et qui n'est pas traduit en français, il affirme « Le christianisme est en son essence une religion de la foi, mais non pas de la foi en Dieu, au Dieu de Jésus-Christ, au salut. Mais il affirme « Le christianisme est en son essence une religion de la foi en la venue du royaume de Dieu. » Royaume de Dieu mentionné 14 fois dans l'évangile de Marc, 32 fois chez Matthieu, 39 fois chez Luc, 2 fois seulement chez Jean qui spiritualise, intériorise, actualise cette notion dans ce que l'on a appelé une démythologisation. Mais il y a là déjà une centaine de références, sans compter toutes celles où on parle de Jésus roi, où on parle du Messie à venir, où on parle du Fils de l'homme qui doit revenir, nous dit-on, sur les nuées du ciel. Tout cela est lié à cette question du royaume de Dieu. Alors comment Albert Schweitzer a-t-il tout à coup découvert la centralité de ce message ? Il est étudiant en théologie à la faculté de Strasbourg, il a déjà fait des études de philosophie, un doctorat en philosophie, et pendant ses études, il accomplit son service militaire. Et pendant des manœuvres, il a emporté avec lui un exemplaire du Nouveau Testament en grec. Et il le lit par le commencement, ce Nouveau Testament, donc par l'évangile de Matthieu. Et il arrive au chapitre 10, puis tous les chapitres suivants. Et quelle n'est pas sa surprise ? Il découvre là, de manière précise, qu'on nous dit que Jésus envoie ses disciples en mission et dit Jésus qu'ils n'auront pas achevé leur périple, que le Fils de l'homme sera revenu et que les tribulations ultimes auront eu lieu. Or, nous le savons bien, Les disciples reviennent à Jésus et rien ne s'est produit. Il ne faut pas gommer ces pages qui nous gênent. Il faut les prendre dans un certain sens au pied de la lettre, c'est-à-dire bien y voir que Jésus annonce dans beaucoup de textes la venue surnaturelle de ce royaume qui n'a rien à voir avec ce avec quoi on le confondait souvent à l'époque, une civilisation de progrès, bien sûr occidentale, qui allait se confondre finalement avec ce royaume de Dieu. Mais il faut admettre que ces paroles sont authentiques de Jésus, parce qu'on n'aurait pas mis dans la bouche de Jésus et après coup des paroles si cruellement démenties par les faits. Et ça fait 2000 ans que l'on attend. Alors, comment interpréter les choses? Et ce sera mon troisième point. Albert Schweitzer va tout simplement dire que Jésus s'est trompé, qu'il n'est pas infaillible. Et cela va scandaliser beaucoup de personnes, bien sûr. Et dans une lettre, adressé en 1952, il a 77 ans, au professeur de grec, de Nouveau Testament, de la faculté de théologie protestante de Paris, il écrit, en réponse à des reproches que lui fait le pasteur Carrez, « Dans votre article, vous me reprochez de situer le centre de gravité de la foi chrétienne dans l'avenir, au lieu de le placer dans le drame rédempteur lors de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ. Le reproche est juste. Seulement, c'est Jésus lui-même qui situe le centre de gravité de la foi chrétienne dans l'avenir. Je ne fais que m'y conformer comme le faisait le christianisme primitif et saint Paul, et comme nous devons le faire nous-mêmes. » Et il ajoute, « Le centre de gravité de la foi chrétienne n'est pas le drame rédempteur de notre dogmatique, mais la venue du royaume de Dieu en notre cœur et dans le monde. » Alors certes, me direz-vous, la croix est au cœur des évangiles, elle est devenue l'emblème du christianisme, mais elle n'est pas au cœur de la prédication de Jésus. Et on ne peut pas, comme on l'a trop souvent fait, prêcher le prédicateur, centrer notre prédication sur la personne de Jésus, sans sa prédication, qui est celle du royaume de Dieu. Le centre de gravité de notre vie spirituelle n'est pas, dit Schweitzer, le drame de la rédemption, mettons cette expression entre guillemets, même s'il faut l'entendre dans un sens imagé, et face au royaume de Dieu, quand Jésus sur la croix déclare « Tout est accompli », nous savons bien par rapport à ce royaume que tout reste à faire. Il ne faut pas toujours regarder en arrière de nous, vers cette croix, dans une attitude passéiste, doloriste, figée que nous serions devant un crucifix et pensant qu'au cœur de nos théologies, nous n'avons qu'à gérer un acquis. Non, un avenir s'ouvre devant nous. Il y a là, comme le montre le Nouveau Testament, une conquête à vivre, dans un combat dynamique, inventif et créateur. Pour conclure cette première étape, j'aimerais citer l'Évangile de Marc, chapitre 9, verset 1. C'est un verset qui exprime ce que j'ai essayé de faire entendre dans cette première étape, mais je dois vous dire que je suis assez scandalisé quand je vois comment les commentateurs de ce texte, gênés par lui, en apportent des réflexions, des explications tarabiscotées pour ne pas voir ce que le texte dit. Marc 9, 1, mais il y a des parallèles dans les autres évangiles. Jésus dit encore à ses disciples, « Je vous le déclare, c'est la vérité. Quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront pas avant d'avoir vu le royaume de Dieu venu avec puissance. » Deuxième étape, les chrétiens sociaux dont j'ai parlé au mois de février avec plus particulièrement Wilfred Monod, père de Théodore Monod, pasteur de cette paroisse, professeur à la faculté de théologie protestante de Paris, les chrétiens sociaux ont voulu mettre en œuvre un christianisme social en appliquant véritablement une théologie du royaume de Dieu. Ils voulaient, disait-il, retrouver le dynamisme combatif originel des premiers chrétiens et ne pas laisser cette lutte aux athées révolutionnaires des années 1900. L'espérance chrétienne, répète-t-il, ne nous exile pas hors de ce monde, mais nous y inscrit pour le transfigurer. Le croyant n'est pas quelqu'un de résigné. En 1964, un théologien allemand très connu, Jürgen Moltmann, a publié un livre qui a fait le tour du monde, traduit dans d'innombrables langues, et qui s'appelait « Une théologie de l'espérance ». Et il montrait là que foi et espérance, foi et action, foi et royaume de Dieu dans le monde d'aujourd'hui sont une seule et même réalité. Mais ce que l'on ne dit pas, ce que l'on ne sait plus, ce que l'on a oublié parce que la vague de la théologie issue de Karl Barth a submergé toute la théologie, c'est que Wilfred Monod, dans les années 1900, a déjà publié une théologie de l'espérance en deux volumes remarquables sous le titre « L'espérance chrétienne ». Premier volume, le roi. Deuxième volume, le royaume de Dieu. Alors, deuxième point, les chrétiens sociaux vont essayer de ressaisir dans une sorte de tension dialectique à la fois le Messie et le messianisme. Nous, chrétiens, disent-ils, nous avons un Messie. Et nous regardons toujours derrière nous et à la croix pour le proclamer, nous avons perdu une théologie de l'espérance, un messianisme, et ce sont d'autres qui mènent ce combat et annoncent des lendemains qui chantent. Il nous faut, disent les chrétiens sociaux, réconcilier l'espoir et le vouloir, le Messie et le messianisme. Vous savez que ce mot « Messie » est exactement synonyme de celui de Christ. C'est un titre. « Messie » vient de l'hébreu, « Christ » vient du grec, et cela désigne celui qui reçoit en quelque sorte une délégation de pouvoir de Dieu et qui est au bénéfice de l'onction. Quand nous disons « Quelle est votre religion ?» et que nous répondons « Le christianisme », Wilfred Monod déclare « Nous pourrions tout aussi bien répondre, et cela fait entendre autre chose, le messianisme. Nous sommes messianistes avec les Juifs, nous attendons ce royaume de Dieu, mais nous le faisons adosser ensemble à la prédication des prophètes, qui tous, quand ils parlent de messianisme, de royaume de Dieu, du Messie et de ce royaume à venir, tous, quand ils annoncent ce qu'ils appellent le plus souvent le jour de l'Éternel, rendent cela inséparable d'un combat pour la justice. Vous vous rappelez, en février, je l'ai cité, les paroles de l'Éternel d'après Amos, l'Éternel qui déclare « Je déteste vos cérémonies religieuses, mais que le droit coule comme l'eau et la justice comme un torrent qui ne tarit pas. » Jésus annonce le royaume, mais surtout, il le veut. Et s'unir à ce « il le veut », s'unir à sa volonté, c'est vouloir changer ce monde dans le sens de la justice. Alors je conclus cette deuxième étape, après avoir conclu la première par une citation de Marc, par une citation de Matthieu, qui là aussi exprime ce que j'ai voulu faire entendre dans cette deuxième partie, Matthieu 6, 33. Ce verset, je l'avais inscrit, c'était la seule référence biblique, dans ma lettre d'invitation à ma reconnaissance de ministère pastoral en 1966. Et vous allez voir que je persévère par conséquent dans l'être. Matthieu 6, 33, Jésus affirme « Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et tout le reste vous sera donné en plus. » Alors voici ma troisième étape. Les uns attendent un royaume de Dieu identifié à la vie éternelle, avec la vie éternelle. Et c'est vrai que certains textes bibliques permettent cette identification, le royaume de Dieu donc après notre mort. D'autres disent pas du tout, pas du tout. Il nous faut vivre maintenant ce royaume de Dieu dans un combat actuel. Eh bien, la spécificité du christianisme, dans un paradoxe, c'est qu'il met ensemble ces deux affirmations opposées et qui se contredisent. Il les maintient. Dans une perspective de la fin des temps, et la Bible annonce de nouveaux cieux, une nouvelle terre, et dans une perspective éthique, actuelle. Nous sommes là dans une tension. L'attente du royaume de Dieu est pénétrée d'une énergie éthique. Et nous sommes à la fois par rapport à ce monde dans un détachement, parce que ce monde tel qu'il est ne nous satisfait pas. Mais ce détachement n'a pas à être une ascèse, parce que nous sommes aussi, par rapport à ce monde, dans une attitude d'attachement, parce que ce monde est ce monde de Dieu, parce que nous devons y inscrire, dans une dimension à la fois personnelle et sociale, l'amour du prochain. Et pour Albert Schweitzer, c'est l'apôtre Paul qui nous permet de prendre ce virage qui nous conduit d'une attente imaginée comme surnaturelle dans la venue de ce royaume de Dieu à un chemin qu'il nous faut suivre dans un combat éthique. C'est Paul, dit-il, parce que Paul est le champion d'un mysticisme éthique. Mysticisme, parce qu'il dit sans cesse que nous sommes en Christ, mais en disant cela, il dit que c'est parce que nous sommes en Christ que nous devons, dans ce monde, pratiquer l'amour du prochain, et nous savons bien qu'il est l'auteur de l'hymne à la charité de 1 Corinthiens 13. Alors, et c'est mon deuxième point, le futur par rapport au royaume de Dieu et le futur d'un présent. Croire à la vie future, c'est d'abord croire à la vie présente. Jésus ne nous enseigne pas comment fuir hors de ce monde, mais comment le transfigurer. Enfin, et c'est mon dernier point et ma conclusion, après avoir cité Marc à la fin de la première étape, puis Matthieu à la fin de la seconde, j'aimerais citer Luc, chapitre 17, versets 20 à 21, et plus particulièrement la deuxième partie de ce verset 21, où Jésus déclare « Sachez-le, le royaume de Dieu est en vous. » Mais voilà, les choses ne sont pas si simples. Et cela fait 2000 ans qu'on hésite dans la traduction de cette affirmation, parce qu'en grec, la préposition « en vous » n'est pas « en » comme cela devrait être, mais « entos ». Qu'il serait plus juste de traduire « le royaume de Dieu est parmi vous ». Et vous comprenez que c'est très différent si l'on traduit « le royaume de Dieu étant chacune et chacun de vous » ou si l'on traduit « le royaume de Dieu est au milieu de vous et parmi vous ». Alors vous pensez bien que les théologiens s'en donnent à cœur joie. Et l'exégète, d'origine suisse, spécialiste de l'évangile de Luc, qui enseigne aujourd'hui à Harvard, aux États-Unis, que j'ai bien connu, François Bovon, pour faire comprendre ces deux versets, mentionne 69 ouvrages. Enfin, il y a quand même un point sur lequel il semble que sa pensée soit net, c'est qu'il nous dit, quelle que soit la traduction retenue, ces deux traductions ont quelque chose en commun, d'après le contexte. C'est qu'elles nous disent l'une et l'autre qu'en fonction de ce royaume de Dieu, que devant ce royaume de Dieu, nous ne sommes pas des spectateurs neutres et passifs. Nous devons nous inscrire dans l'ordre de la décision et de l'action. Et alors, Bovon montre, et c'est très intéressant, que dès les origines du christianisme, il y a eu débat. Et que certains pères de l'Église, ces premiers théologiens chrétiens, par exemple Tertullien, par exemple Origène, ont proposé une traduction qui sera ma conclusion. Toute traduction est toujours, quelle qu'elle soit, une interprétation. Et si Père de l'Église traduisent ainsi, « Le royaume de Dieu est entre vos mains. » Oui, le royaume de Dieu est entre nos mains. Amen.